On parle des pleurs de l'enfant dans notre émission avec le partenariat du Centre socioculturel CAF de Vire, avec trois intervenants maintenant qui sont venus nous rejoindre à notre micro aujourd'hui. François Stahan, médecin protection maternelle et infantile. François Stahan qui est situé à Vire, donc précisément rue des Acres. Non, pas rue des Acres, rue Alfred Le Nouvel. Et puis justement, rue des Acres, nous avons le pôle enfance, adolescence, famille. Et avec nous aujourd'hui, Paul Varnier, pédopsychiatre, et Camille Launay, coordinatrice donc de ce pôle enfance, adolescence, famille. On a écouté, d'abord bonjour à tous, on va revenir avec vous sur vos différentes fonctions, comment vous intervenez. François Stahan, donc vous êtes médecin protection maternelle et infantile, donc ça consiste en quoi vos interventions, Françoise?
Alors, donc le service de protection maternelle et infantile dépend du conseil départemental, et parmi nos missions, j'effectue des consultations jeunes enfants, donc avec une puéricultrice. Donc ces consultations sont ouvertes pour les enfants de la naissance à 6 ans. Dans ces consultations, on ne voit pas des enfants malades, pas de maladies aiguës, donc on voit des enfants qui sont en bonne santé. Et le travail est d'accompagner les parents dans la prise en charge de leur enfant. Donc on est complémentaire du médecin traitant. On prend le temps d'écouter les parents et de rechercher avec eux des réponses aux questions qui se posent. Donc j'examine les enfants, on peut faire les vaccinations, mais on prend surtout le temps d'échanger avec les parents pour que l'enfant grandisse au mieux. Et on fait des orientations si nécessaire, donc chez des spécialistes, où on peut aussi orienter au pôle enfance, adolescence, famille quand il y a nécessité. C'est vrai qu'on travaille bien ensemble. L'intérêt aussi de notre intervention, c'est qu'il peut y avoir des interventions à domicile. Les puéricultrices peuvent aller à domicile et accompagner au plus près les familles. Et donc l'idée, c'est de mettre en place tout ce qui peut aider les parents à prendre en charge les enfants et les enfants à bien grandir.
Et les familles, elles sont de plus en plus nombreuses à être en difficulté par rapport à l'enfant ?
Toute famille peut avoir des questions à poser.
Oui, ça peut être passager, quoi.
C'est oui.
Ponctuel, quoi. Ponctuel.
Ça peut être ponctuel. Et ce qui est important, c'est que les réponses leur soient apportées quand l'enfant est petit. Parce que si une réponse n'est pas apportée tout petit, l'enfant va grandir et les difficultés vont peut-être grandir aussi.
Avec nous donc également Camille Launay. Camille, vous êtes donc coordinatrice au sein donc de la structure du pôle enfance, adolescence, famille. Alors ça consiste en quoi, Camille ? Alors en quoi consistent vos interventions, Camille ?
Alors moi j'interviens comme coordonnatrice sur le pôle enfance, adolescence, famille afin de coordonner les différentes unités qui interviennent, d'amener une stratégie de pôle et puis de proposer une stratégie partenariale sur le territoire. Donc là, aujourd'hui, on va plutôt s'intéresser aux 0-6 ans, même si au pôle, nous accueillons les 0-20 ans. Mais sur l'équipe des 0-6 ans, nous sommes amenés donc à recevoir des familles et leurs enfants qui présentent une certaine forme de souffrance, qu'elle soit dans la relation parent-enfant, qu'elle soit d'ordre éducatif, qu'il y ait des troubles d'ordre moteur, intellectuel, sensoriel ou d'autres types de troubles. On accueille dès qu'il y a une situation de souffrance et on essaie d'intervenir assez précocement puisque plus on intervient tôt, plus les difficultés peuvent se résorber rapidement plutôt que s'enquister, comme le disait le docteur Tahan, et nous amener plus tard à rencontrer des enfants entre 6 et 12 ans qui peuvent avoir de grosses difficultés. Donc on essaye d'intervenir vraiment précocement. On peut intervenir sur des situations assez légères qui vont nécessiter un accompagnement ponctuel ou sur des situations plus lourdes, plus compliquées, avec par exemple des situations de handicap notamment. Et parfois sur orientation du docteur Tahan qui a reçu les familles auparavant et qui les a orientées vers nous afin qu'on puisse pousser l'accompagnement.
Très bien. Et troisième personne avec nous dans ce tour de table de cette première, deuxième partie de l'émission, c'est Paul Varnier. Vous êtes pédopsychiatre au sein de la même structure, hein, Paul.
Oui, c'est ça. Je suis donc médecin spécialiste. Je suis praticien hospitalier sur le PSM de Caen et donc j'interviens sur le pôle enfance, adolescence, famille de Vire. Donc moi, mon métier, bah, c'est de diagnostiquer et de prendre en charge, en tout cas, préconiser des soins pour les troubles psychiatriques ou pédopsychiatriques que peuvent présenter effectivement les enfants qui nous arrivent effectivement au PEAF de Vire.
Alors, on a entendu tout à l'heure donc le micro-trottoir réalisé avec plusieurs interrogations, plusieurs réflexions aussi. Alors, est-ce que les pleurs de l'enfant, c'est quelque chose de normal, François Stahn ?
Pour un enfant, c'est tout à fait normal. Et un tout petit qui n'a pas encore le langage n'a que ce moyen pour s'exprimer. Donc oui, le pleur du tout petit est normal.
Alors, normal, mais qu'est-ce que vont constater des professionnels comme vous sur l'évolution des pleurs, justement, quoi, sur comment l'approche des professionnels sur les pleurs de l'enfant, quoi.
Je pense qu'on a, avec la pratique, avec l'expérience, je pense qu'on essaie de se former et d'être plus à l'écoute du tout petit. Durant nos études, on n'apprend pas à prendre en charge le pleur de l'enfant. C'est vrai que...
C'est pas grave.
En tout cas, au niveau de l'accompagnement qu'on propose aujourd'hui, on n'est plus tant centré sur l'enfant en tant qu'enfant symptôme, enfin en tant que personne problème, mais on va plutôt s'intéresser à l'enfant dans son environnement, avec sa famille, et on ne va pas seulement considérer le pleur de l'enfant, mais on va aussi regarder comment le parent s'ajuste aux pleurs de l'enfant et s'accorde aux pleurs de l'enfant, et on va venir observer cette relation en parent-enfant et pas uniquement se centrer sur le fait que l'enfant pleure beaucoup ou ne pleure pas.
Oui, donc on parlait de normalité. Effectivement, faut savoir que le pleur, d'ailleurs c'est un des premiers sons qu'on entend de l'enfant à la naissance, c'est son seul moyen de communiquer lorsqu'il est petit, lorsqu'il n'a pas acquis les compétences de communication plus complexes que connaît un enfant lorsqu'il se développe. Et effectivement, comme disaient mes collègues, c'est à travers l'interaction entre le pleur est situé dans l'interaction entre l'enfant et ses parents, puisque c'est un vecteur, c'est un moyen de communication.
Donc c'est à vous aussi d'aider les parents à différencier les pleurs et leur utilité. Catherine ? Oh, Françoise ?
Oui, c'est vrai que l'enfant quand il pleure, il manifeste un inconfort. Il peut pleurer s'il a faim, s'il a sommeil ou autre inconfort, mais il peut aussi pleurer parce qu'il a il a besoin d'être porté, d'être pris dans les bras. En fait, il a aussi besoin d'être chargé en nourriture affective autant que l'autre nourriture. Donc un enfant qui pleure, c'est important d'y répondre et de le prendre dans ses bras
un certain réconfort aussi,
voilà,
c'est ça,
voilà.
Le réconfort.
Et je pense que quand on est notamment jeune parent, on ne se rend pas forcément compte, on ne le sait pas avant que le pleur va faire partie, je trouve, de la vie qu'on va vivre avec son enfant, en tout cas dans les premiers mois et a fortiori dans les trois premiers mois. Et c'est quelque chose qui peut surprendre et qu'on oublie aussi par la suite, mais qui au début surprend un petit peu.
Parce que les pleurs augmentent. Alors, les pleurs augmentent à partir de la deuxième semaine de vie et ils sont plus importants entre 6 et 8 semaines. Il faut savoir qu'un enfant peut pleurer en moyenne 2 heures par jour, et c'est normal. Et ça diminue par la suite, et ça se stabilise vers 6 mois. Il y a des enfants qui pleurent davantage que d'autres.
6-8 semaines, ça s'explique véritablement ? Pourquoi 6-8 semaines, les pleurs augmentent ?
Alors, il y a une origine électrophysiologique à ça, c'est que les stades d'éveil et de sommeil du nouveau-né ne sont pas aussi les mêmes que celles de l'adulte, qui est composée d'une phase d'éveil et de plusieurs stades de sommeil. Et il y a chez le nouveau-né, en tout cas, seulement deux stades d'éveil qui sont identifiés sur le plan de, électrophysiologique. C'est le stade de veille calme et le stade de veille agité, dans lequel il peut y avoir beaucoup de pleurs. Et la maturation aussi et le développement de l'enfant font qu'il va tendre vers une forme finalement plus adulte, plus mature de cet aspect-là. Et donc, effectivement, dans les états de veille agités, l'enfant est agité, se tortille, bouge dans tous les sens et puis peut hurler, pleurer sans qu'on soit capable. Enfin, en tout cas, en tant que parent, on ressent une certaine impuissance, à mon avis, à pouvoir y répondre.
Ce que je souhaitais ajouter par rapport à votre question de est-ce qu'on va aider le parent à comprendre les pleurs de son enfant ? Non, en fait, finalement, le parent est l'expert de son enfant. C'est pas nous qui allons identifier ce que veut dire l'enfant via ses pleurs. Nous, on va plutôt aider le parent à observer son enfant, à le regarder, à comprendre comment son enfant communique, afin que le parent s'approprie lui-même, finalement, les pleurs de l'enfant et que lui-même puisse savoir ce que le pleur signifie. C'est pas nous qui allons dire ce pleur signifie telle chose. On va plutôt aider le parent à se mettre en relation avec son enfant pour pouvoir lui-même repérer quand est-ce que ce pleur signifie ceci ou cela. Nous, on va vraiment porter le parent pour qu'il puisse porter son enfant. Mais on ne va pas expliquer aux parents comment porter son enfant de manière standardisée, puisque chaque enfant est individuel et chaque parent aussi.
Alors, quelle est la démarche, dans un premier temps, des parents pour venir vous voir ? Ça répond à une interrogation, ça répond à un signalement des gens qui les accompagnent et qui disent « tu ferais bien d'aller voir telle ou telle personne ». Comment les parents arrivent, vont vers vous ? Quoi, voilà.
Sur les pleurs des parents, sur les pleurs des petits, oui, souvent c'est des situations d'épuisement finalement qu'on reçoit, c'est-à-dire des parents qui peuvent être à bout de force, qui ne dorment plus, qui n'arrivent pas à faire garder leurs enfants parce que l'enfant présente trop de difficultés chez les assistantes maternelles par exemple. Voilà, on peut avoir des parents vraiment très très fatigués qui vont déclencher la demande tout seul, ou alors ça va être une demande qui va être adressée par un partenaire tel que la PMI qui va avoir repéré par exemple des parents en souffrance de ne pas réussir à comprendre leur enfant, de se sentir incompétent en tant que parent, parce que notre rôle c'est aussi de réassurer les compétences parentales. Souvent on a des parents qui sont très compétents mais qui l'ignorent. Et voilà, donc c'est principalement nos partenaires qui vont orienter, ou les parents eux-mêmes épuisés qui vont se présenter à nous. Paul, je ne sais pas si tu souhaites...
Non, ce que je voulais dire, c'est que oui, c'est vrai qu'on vous adresse les enfants. Dans un premier temps, quand on les reçoit en consultation jeunes enfants, donc déjà, nous, on examine l'enfant, parce qu'il faut quand même éliminer un problème médical. Mais il faut savoir qu'un problème médical, un problème somatique, ne représente que 5% des pleurs du bébé. Donc la douleur, enfin une maladie qui peut être traitée, ça ne représente que 5%. Des motifs de pleurs de l'enfant. Mais il faut quand même faire un examen somatique pour vraiment éliminer un problème médical, parce qu'on ne peut pas passer à côté d'un problème médical. Donc après, c'est vrai que avec le parent, on essaie de décoder le pleur de l'enfant, de passer un petit peu en revue la prise en charge au quotidien, de revoir... tout ce qui est alimentation, sommeil, voir aussi si le parent, enfin s'il y a le père, la mère, s'ils arrivent à se passer le relais, s'il y a un entourage familial qui peut aussi aider. Et c'est vrai qu'on peut aussi réfléchir avec le parent et chercher avec lui la solution pour les accompagner. Mais c'est vrai que ce qui est important à prendre en compte, c'est aussi l'épuisement et la détresse du parent, parce que souvent le pleur de l'enfant n'est pas grave, il faut y répondre, mais si le parent en face est très angoissé, le pleur de l'enfant sera majoré. Donc c'est vraiment important de rassurer le parent et de l'aider à trouver des solutions pour apaiser son enfant. Et c'est vrai que parfois, quand c'est un petit peu plus compliqué, on passe le relais au PEF parce que peut-être derrière, il y a des choses à travailler.
Merci à tous. On marque une pause. On se retrouve d'ici quelques minutes. Avec nous toujours nos invités donc dans cette émission spéciale consacrée aux pleurs de l'enfant avec le Centre socioculturel CAF de Vire en cette journée du samedi sur Radio VFM. Paul Varnier, vous souhaitiez revenir sur le moment d'épuisement et de solitude au moment de la naissance.
On sait que la naissance et les premières semaines, voire celles d'avant qui encadrent cette naissance, peuvent être assez épuisantes. L'enfant ne fait pas forcément ses nuits. Il y a énormément de fatigue et de détresse. Et je pense que, ça rejoint la question de la normalité des pleurs, le fait de se sentir entouré, le fait de se sentir soutenu, je pense que c'est ce qui fait qu'on traverse cette période compliquée. Des pleurs du nouveau-né qui peuvent être effectivement très anxiogènes et qui nécessitent d'avoir en soi des ressources pour s'apaiser, apaiser l'enfant et puis continuer d'avancer ensemble.
Alors, oui, Françoise, pleurer, donc c'est assez sain pour l'enfant, c'est un moyen de communication
c'est
assez rassurant. Il y a un côté rassurant et puis un côté angoissant quoi, voilà. Pour les parents.
Alors ce que je voulais dire aussi par rapport aux pleurs qui sont normales et qui font du bien à l'enfant. Souvent en fin de journée, l'enfant, il a mangé, il est changé, il est pris dans les bras. Donc on peut penser que on a répondu à toutes ces demandes, et pourtant, il pleure. Donc, ces pleurs-là peuvent être liées à toutes les émotions qu'il a pu vivre dans la journée, parce qu'un bébé, il apprend plein de choses. Tous les jours, son cerveau est en train de se former. Il est en train d'apprendre, d'apprendre le langage, d'apprendre au niveau de la motricité. Il est vraiment en plein apprentissage. Sauf qu'il a aucun moyen d'exprimer ses émotions. Et ses émotions, il exprime par le pleur. Et ce pleur lui est salutaire. Donc c'est des pleurs qu'il faut pas faire cesser à tout prix, parce qu'il en a besoin et ça le soulage. C'est vraiment des pleurs qu'il faut laisser sortir et les accompagner.
Et on sait aussi en tant que professionnel, mais aussi autrement quand on est parent, à quel point ce type de pleurs-là peuvent être difficiles à vivre quand il y a la fatigue, l'épuisement, quand on a repris le travail, etc. Difficiles à vivre en tant que parent. Est-ce que ça peut générer comme sentiment d'impuissance et du coup d'insécurité, d'où l'importance encore d'être soutenu et entouré. Alors je voulais aussi rebondir, c'est vrai que le bébé, on pourrait penser que quand il naît, le nouveau-né peut déjà être un mini adulte, mais non, il ne faut pas oublier qu'il a vécu 9 mois, il s'est développé pendant 9 mois dans un environnement très où il ne ressentait ni la faim, ni le froid, ni toutes les sensations désagréables qui d'un coup vont l'assaillir. Toutes les stimulations qui vont l'assaillir dans les premières semaines, qui effectivement contribuent aussi à ce que l'enfant ait besoin de décharger à un moment donné. Et c'est son seul moyen.
Et on parlait de fatigue, et je crois vraiment que les ressources sont importantes, parce qu'au pôle, on peut accueillir des familles qui sont vraiment épuisées, mais aussi parce qu'elles sont très seules. Elles manquent d'entourage amical, familial, des familles monoparentales aussi, et qui peuvent vivre assez difficilement le fait de devoir passer le relais parfois, de se sentir coupable, d'être fatiguée, d'être épuisée, alors que finalement, c'est ce qu'on va souvent travailler en lien avec la PMI, c'est d'apporter un peu de répit à certaines familles qui ont le droit d'être fatiguées. Et c'est vrai que ce que disait le docteur Tahan tout à l'heure sur l'état émotionnel du parent, l'état de fatigue du parent va venir jouer en miroir avec l'état émotionnel de l'enfant. Et donc, on peut assez vite tomber sur un cercle vicieux que nous, on va essayer d'enrayer et puis d'apporter une certaine contenance à la famille via par exemple des interventions à domicile coordonnées en plus des interventions que nous on pourra proposer au PEAF.
Alors, et un enfant qui pleure pas, alors il y en a, hein, qu'est-ce qu'il faut en penser, c'est une bonne chose ou pas alors?
Alors juste cette question-là, ça me fait penser à certains mythes qu'il y a dans notre société, que effectivement un enfant qui pleure, c'est un enfant dont on ne sait pas s'occuper, dont on ne sait pas, et on aurait en tête l'idéal d'un enfant qui effectivement ne pleurerait pas et n'aurait pas et du coup ne viendrait pas finalement générer ce sentiment d'impuissance chez les parents, et que ça ferait du coup des parents des bons parents. Je pense que un enfant qui pleure pas, étant donné que c'est son seul mode d'expression et de communication, il faut avoir une certaine vigilance. Docteur Tahan disait tout à l'heure qu'effectivement, c'est pas des pleurs qu'il faut cesser à tout prix. Effectivement, on en revient à la normalité des pleurs et au fait que c'est quand même important d'entendre un enfant pleurer.
Parce que parfois, un enfant qui ne pleure plus, il a tellement pleuré avant, on n'est pas venu s'occuper de lui, alors il arrête de pleurer. Parce que il sait qu'on ne viendra pas répondre à ce pleur et donc il arrête de pleurer. De la même manière, un enfant qui a un petit poids de naissance et qui, pour lequel donc on surveille le poids, il est trop fatigué, il est épuisé et il s'économise. Donc il ne pleure pas, donc c'est un bébé qui dort en permanence. Il faut le réveiller pour lui donner à boire. Et quand il a atteint un certain poids, il se remet à pleurer. Et là, on est rassuré parce que ça y est, ça repart, le poids repart et il pleure. Et là, on est très rassuré d'avoir un bébé qui
pleure. C'est vrai qu'on est assez rassuré d'avoir un bébé qui pleure parce que le bébé qui ne pleure pas, nous inquiétera plus en pédopsychiatrie puisque ça veut quand même dire que sur le plan relationnel et de la communication, il y a eu une rupture, il y a quelque chose qui s'est cassé. Et si on n'intervient pas précocement, c'est des enfants qui ensuite peuvent s'enfoncer dans des troubles de l'attachement ou des troubles de la communication ou de la relation assez importants. Et c'est important que l'enfant pleure.
Paul Varnier.
Oui, et alors tout ça, c'est effectivement à modérer. Parce qu'il y a des enfants qui pleurent beaucoup, il y a des enfants qui pleurent moins aussi, dès qu'ils dorment plus, dès qu'ils dorment moins, etc. Effectivement, tout ça, c'est pris dans le cortège de la normalité, j'ai envie de dire, et que... Effectivement, le fait d'être dans des mesures de prévention, je pense que c'est essentiel à ce sens-là pour pouvoir effectivement détecter quand ça ne va pas et pouvoir rassurer quand ça va bien.
Alors, les pleurs, ça dissimule aussi un autre phénomène dont on parle régulièrement dans les médias, c'est les bébés secoués. Françoise, vous avez l'occasion, hélas, de rencontrer ce type de problème plus fréquemment maintenant qu'avant, quoi.
On en rencontre malheureusement de trop encore. Mmh. Et c'est vrai que ce sont les parents exténués. Le pleur doit cesser à tout prix et le bébé est secoué. Donc c'est vraiment important d'intervenir, comme on disait, en prévention. Et ce qui est important quand on reçoit les parents, c'est vraiment important qu'ils puissent exprimer qu'ils n'en peuvent plus, qu'ils ne supportent plus leur enfant. Et c'est bien qu'ils puissent le dire, et c'est bien qu'ils puissent venir chercher de l'aide, mais c'est vraiment quand on ne supporte plus les pleurs de son enfant, c'est important de le dire, et c'est vraiment important de venir chercher de l'aide. Voilà.
Paul Varnier.
Oui, et ce moment de la naissance, c'est aussi un moment de vulnérabilité, de par la fatigue qu'il y a. Et cette prévention, elle est aussi nécessaire pour détecter, par exemple, chez les parents ou la maman, des états dépressifs qui peuvent survenir et qui peuvent aussi majorer ces risques-là, de par l'épuisement, de par le stress que peut générer. Parce qu'encore une fois, il y a un mythe à déconstruire. Du parent pour lequel tout irait bien et que finalement c'est plus compliqué que ça d'être parent. Voilà. Et ça, on ne le sait pas avant.
Et c'est vrai qu'en consultation, on s'inquiète autant de la santé du parent, de son état de fatigue que le bébé. C'est vraiment important de prendre soin du parent et de l'accompagner. Quand on prend soin du parent, on prend soin de l'enfant. C'est important qu'un parent aille bien pour bien prendre bien prendre soin de son enfant.
Les publics que vous accueillez, c'est des publics qui sont orientés ou ça leur arrive aussi de venir de manière autonome?
À la PMI, tout parent, toute femme enceinte reçoit une mise à disposition de la sage-femme en prénatal. Donc la sage-femme peut accompagner la femme durant la grossesse en lien avec le gynécologue du suivi gynécologique bien sûr qui se fait en parallèle par le spécialiste. Et après la naissance, donc pendant en fin de grossesse, les familles reçoivent une mise à disposition de la puéricultrice et des consultations de jeunes enfants. Les puéricultrices essaient aussi de passer dans les maternités pour se présenter. Donc, c'est notre biais d'information, de mise à disposition. On se met à disposition de toutes les familles à la naissance de l'enfant. Et elles peuvent venir donc prendre rendez-vous. Les consultations sont gratuites.
Voilà, c'est ce que j'allais vous demander.
Mais c'est ouvert à tout. Alors nous, on prend la carte vitale sur le parcours maternité, mais sur les consultations qui sont remboursées à 100%. Voilà. Mais sinon, les consultations sont gratuites, ouvertes à tous. Et voilà. Donc.
Et de votre côté, au pôle.
Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, ça peut aussi bien être les familles qui viennent d'elles-mêmes dans des états d'épuisement, ou ça peut être des partenaires qui orientent, ou les conseils d'une mamie, d'une nounou qui voit des parents s'épuiser. Voilà, on a des familles qui sont orientées comme ça. Et chez nous, donc, c'est la même chose, c'est la sécurité sociale qui prend en charge les dépenses de santé. Donc, les parents n'ont pas à débourser d'argent pour venir consulter au PEAF. Alors, ils sont d'abord reçus par un accueillant qui peut être aussi bien un médecin qu'un éducateur, une psychologue ou une infirmière. Et on va évaluer la situation globalement avec le parent et l'enfant et ensuite faire une proposition de soins adaptés à la famille si elle en a besoin. Parfois, simplement d'avoir accueilli, d'avoir discuté un petit peu, on a réussi à réassurer le parent dans ses compétences et parfois c'est suffisant.
Une dernière question avant de faire une nouvelle pause dans notre émission. On n'a pas parlé du caprice de l'enfant, c'est quelque chose qui a été retenu aussi tout à l'heure. Ça y est, il fait un caprice, celui-là, il est plus capricieux qu'un autre. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça, Paul Varnier?
Alors effectivement, cette question-là, elle est importante parce que dès l'instant où on parle de caprice, on attribue à l'enfant des intentions sur l'origine de ses pleurs. Sauf qu'un enfant... avant un certain âge, et bien n'a pas d'intention particulière quant aux réactions du parent, si ce n'est, en tout cas pour les âges qu'on décrit, une réaction de réassurance et d'une contenance affective. C'est-à-dire que l'enfant, effectivement, on peut entendre dire il veut être pris dans les bras, il veut avoir ce qu'il veut, etc. Et que le pleur viendrait signifier ça. Alors c'est une forme d'attribution d'intention de la part du parent, mais... à cet âge-là, l'enfant n'a pas encore ces intentions-là. En tout cas, même si plus tard, il pourra avoir des désirs et des souhaits, on n'est pas, en tout cas, à cet âge-là, dans l'élaboration aussi complexe d'une envie ou d'une pensée. Donc non, à cet âge-là, le caprice n'existe pas.
Françoise, vous voulez rajouter quelque chose?
Non, je voulais juste dire que son cerveau est en pleine évolution et son cerveau ne peut pas penser ça encore parce qu'il est encore trop petit. Donc avant un an, on ne peut pas du tout, il ne peut pas avoir d'intention puisque la construction de son cerveau ne le lui permet pas. Donc on ne peut pas parler de caprice.
Je crois qu'on peut parler de sécurité, peut-être, ouais. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. L'enfant quitte le ventre de sa mère qui a un environnement assez protégé pour se retrouver dans un environnement très différent. Et ce pleur vient interpeller le parent pour sécuriser l'enfant et lui prouver qu'il est en sécurité aussi dans cet environnement-là. Et c'est important que le parent puisse montrer qu'il est figure de sécurité pour son enfant à ce moment-là.
Alors on rappelle, avant de retrouver d'autres invités, une pause musicale où on va parler avec des professionnels donc, de l'accueil de ces enfants de 0 à 3 ans, avec Shirley Day qui viendra nous rejoindre de nouveau en tant que relais assistant maternel, et puis Nicolas Bonsoeur, infirmier puériculteur. On rappelle les adresses où on peut de nouveau dialoguer, continuer ce dialogue avec vous pour ceux... qui aurait été interpellé par vos propos aujourd'hui.
Alors, il est possible de prendre rendez-vous au Pôle Enfance Adolescence Famille de Vire, qui est situé 52 rue des Acres. Et nous avons aussi une antenne de ce CMP, du CMP à Condé, en Normandie, où les familles peuvent aussi téléphoner pour une prise de contact et une demande de rendez-vous.
Et de votre côté, donc, Françoise Tahan.
La PMI donc a 4 lieux il y a 4 lieux de consultation donc au centre médico-social à Vire rue Alfred Le Nouvel. Il y a une consultation aussi tous les jeudis après-midi à Condé-sur-Noireau. Une fois par mois, il y en a une à Saint-Sever et une fois tous les 15 jours à Béni-Bocage. Voilà.
Très bien, merci. Oui.
Peut-être on peut rajouter qu'effectivement la PMI et le pôle enfance travaillent avec, en lien étroit avec l'accord des familles, parce qu'on se complète vraiment très bien sur ce territoire, la PMI notamment dans le repérage, nous dans le diagnostic et l'accompagnement, mais aussi la PMI nous permet de compléter vraiment nos interventions, notamment au domicile, et je crois que sur certaines situations, notre complémentarité est vraiment un soutien pour les familles, un soutien très contenant qui permet à certaines familles très en détresse finalement de franchir des caps et de se retrouver dans des situations de parentalité plus agréables et plus détendues pour chacun.
Merci à vous. On a bien évidemment compris dans ce dialogue que vous vous complétez parfaitement. Voilà, également. Merci à vous. On marque une nouvelle pause aujourd'hui sur Radio VFM et on se retrouve pour la dernière partie de notre émission d'ici quelques minutes.